Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du jeudi 11 février 2016. À la une ce soir.
Burundi, une nouvelle attaque à la grenade fait une vingtaine de blessés à Bujumbura.
Procès Hissène Habré au Sénégal. Après la demande d'une condamnation à perpétuité faite hier par l'accusation, la parole est aujourd'hui à la défense.
Nous vous emmènerons dans la région du lac Tchad où la sécheresse et les attaques de Boko Haram rendent la vie encore plus précaire pour les habitants.
On parlera aussi en dossier de la circulation des armes légères dans le Sahel.
Quelque part, on peut te dire qu'il y a 800 millions qui circulent dans l'espace de Diao et la majorité de ces armes est tenue par la société civile.
Conférence internationale à Munich sur la crise syrienne. Parviendra-t-on à un cessez-le-feu?
C'est la grande question. Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord le journal.
À Bujumbura, une grenade lancée par un homme à moto blesse presque 26 personnes, dont 9 grièvement dans le quartier de cosmopolite de Bouyenzi, au centre de la capitale. On ne connaît pas encore les mobiles de cette attaque survenue dans ce quartier considéré jusqu'ici comme l'un des plus calmes de Bujumbura. Christophe Kourondiza s'est rendu sur les lieux. Voici son reportage.
Une grenade a été lancée dans un sachet blanc en plein milieu de l'avenue de la Santé par un homme qui était à moto selon les témoignages sur place. 21 personnes qui étaient aux alentours ont été blessées selon la police. Elles ont été conduites pour les soins au centre de santé de Médecins Sans Frontières, Sisaki Gobe, un quartier nouveau situé vers le nord de Bujumbura. 9 personnes sont dans un état grave selon toujours la police qui indique que ceux qui ont commis cet acte ignoble ne sont toujours pas connus, surtout que c'était vers 11h GMT, une heure de grande affluence. Depuis la fin de la semaine dernière, où presque une dizaine de personnes avaient été tuées au nord et au sud de la capitale, une certaine accalmie relative était remarquée dans les quartiers contestataires. Alors que l'opposition burundaise appelle toujours à l'envoi d'une force de l'Union africaine ou des Nations unies, le gouvernement burundais affirme que la paix règne sur près de 99% du territoire burundais. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Les États-Unis ont accusé le gouvernement du Rwanda de chercher à déstabiliser le Burundi voisin, notamment en recrutant les réfugiés burundais pour les enrôler dans une opposition armée contre le régime du président Pierre Nkurunziza. John Linden.
Nous avons vu un certain nombre de rapports de nos collègues sur le terrain qui laissent penser que le gouvernement rwandais est impliqué dans des activités déstabilisatrices au Burundi, a déclaré la secrétaire d'État adjointe pour l'Afrique, Linda Thomas-Greenfield, devant la Commission des affaires étrangères du Sénat américain. C'est la première fois que le gouvernement américain met en cause directement et publiquement les autorités de Kigali dans la crise qui secoue le Burundi voisin. Pour Alain Niamitié, ministre burundais des Affaires étrangères, les États-Unis doivent prendre des mesures concrètes parce que le comportement du Rwanda est contraire à toutes les normes internationales. Les relations entre le Rwanda et le Burundi sont au plus bas, Bujumbura accusant Kigali de soutenir ses opposants, voire de servir de base arrière à une rébellion naissante. Kigali a rejeté ces accusations.
Au Mali, un douanier et deux civils ont été tués à Ombori, dans le nord du pays. Modine Diaye, le douanier tué, est venu prendre ses fonctions seulement hier mercredi. L'attaque est attribuée à des djihadistes. Idriss Fall a joint Aboubakar Samaké, un habitant de Ombori, dans le nord malien.
Dans la nuit, vers 5h50 exactement, des individus lourdement armés ont fait irruption dans la ville de Ombori. Ils se sont attaqués au poste de la douane. Sur le coup, ils ont tué deux personnes, un douanier et un jeune de Ombori. Le second a succombé vers 6h30 suite à ses blessures à l'hôpital de Ombori. Les assaillants se sont dirigés vers le nord. Au moment de l'attaque, ils criaient « Allah Akbar, Allah Akbar ».
Après, les populations ont manifesté devant le poste de douane.
Oui, les populations sont venues. Le chef de village était même présent. Les populations ont manifesté leur mécontentement. Les gens ne se sentent pas vraiment en sécurité.
C'est à Ombori qu'on avait enlevé les deux Français dans un hôtel, non?
Oui, c'est à Ombori qu'ils ont enlevé les deux Français. L'hôtel se trouve vers l'est de la ville. C'est un bâtiment un peu isolé. C'est là-bas que les deux Français ont été enlevés. Et cette fois-ci aussi, il y a une attaque. Les gens ne savent même pas pourquoi ils sont venus faire cette attaque. Est-ce qu'ils se sont attaqués pour se venger des douaniers? Est-ce que c'est seulement pour mettre la puce rouge au niveau de la population? On ne sait pas pour le moment.
Aboubacar Samaki, un habitant de Hombori dans le Nord Malien.
Au Sénégal, la police a arrêté un présumé djihadiste. D'après une source de sécurité citée par l'AFP, il est soumis à un interrogatoire aujourd'hui. Il serait soupçonné d'agir comme recruteur pour les djihadistes en Syrie. Selon la presse locale, il aurait été arrêté lundi à la sortie d'une mosquée de Dakar. Les policiers le pistaient depuis un moment déjà. Il faut dire que la vigilance a été renforcée au Sénégal face au risque d'attentat.
Procès Issa Abré au Sénégal, la parole est à la défense. Les avocats commis d'office pour défendre l'ex-président tchadien devant le tribunal spécial africain à Dakar l'ont présenté comme un patriote qui a voulu faire du Tchad un État moderne. La défense entend plaider la non-culpabilité de l'accusé. Hier, le procureur a demandé une peine d'emprisonnement à perpétuité pour crime contre l'humanité, crimes de guerre et torture.
Ouganda, l'armée affirme détenir Okoto Dek, un ex-chef de l'armée de résistance du Seigneur LRA, capturé en Centrafrique la semaine dernière. Il devrait prochainement être rapatrié en Ouganda. Il avait été capturé le 6 février par une faction de l'ex-rébellion centrafricaine Seleka, puis remis aux forces américaines qui collaborent avec l'Ouganda pour traquer la LRA. Odek était l'un des proches de Joseph Kony, le dirigeant de la LRA. Il avait été enlevé enfant par la rébellion.
Le président sud-africain Jacob Zuma prononce ce soir son discours annuel sur l'état de la nation devant le Parlement réuni au Cap. La police a érigé des barbelés pour prévenir tout débordement. Elle a dispersé à coups de grenades assourdissantes des manifestants rassemblés à proximité du Parlement. Il faut dire que la contestation anti-Zuma se fait de plus en plus forte, notamment depuis que le chef d'État a utilisé des fonds publics pour rénover sa résidence privée. Nombreux sont ceux qui demandent sa démission. Nous y reviendrons en seconde partie d'émission.
Algérie, 13 personnes sont mortes dans une collision entre un camion et un minibus dans la région de Naama. Tel est le bilan fourni par la protection civile.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À Munich, dans le sud de l'Allemagne, se déroule une énième conférence internationale sur la Syrie. Elle accueille les ministres des Affaires étrangères des principaux pays impliqués dans le conflit syrien. La Russie dit avoir fait une offre concrète de cesser le feu. Maëlie Segel.
Le but de cette conférence de Munich est de relancer les négociations de paix entre le régime de Damas et l'opposition. Moscou dit attendre la réponse de Washington à sa proposition de cesser le feu avant de le soumettre au groupe international de soutien à la Syrie. L'opposition syrienne ainsi que les pays occidentaux exigent une trêve immédiate dans les bombardements en Syrie qui ont fait des dizaines de milliers de déplacés depuis début février. La Russie a toujours affirmé que ces bombardements étaient légitimes et ne visaient que des cibles terroristes. Le gouvernement américain incrimine l'armée russe pour la destruction de deux hôpitaux d'Alep mercredi. En retour, la Russie accuse Washington d'avoir bombardé Alep le même jour. Depuis septembre 2015, la Russie soutient le régime de Bachar al-Assad. Les États-Unis et leurs alliés vont tenter de mettre Moscou sous pression à Munich.
Une mutinerie a fait 52 morts et 12 blessés dans une prison de Monterrey, dans le nord-est du Mexique. Cet incident majeur intervient à la veille de la visite du pape François. « Nous sommes face à une tragédie », a déclaré le gouverneur de l'État de Nuevo León, Jaime Rodriguez, lors d'une conférence de presse. Monterrey est une des régions les plus violentes du Mexique.
Lutte contre l'exode massif vers l'Europe. L'OTAN a répondu à l'appel à l'aide de l'Allemagne, de la Turquie et de la Grèce en dépêchant ce jeudi en mer Égée une flotte pour lutter contre les passeurs qui alimentent l'afflux sans précédent de migrants vers le vieux continent. Le chef de l'Alliance, Jens Stoltenberg, a déclaré à l'issue d'une réunion des ministres de la Défense de l'OTAN à Bruxelles que l'ordre a été donné pour le début d'activités de surveillance dans la région. Et c'est une première, car l'OTAN avait jusqu'à présent refusé de s'impliquer directement dans cette crise migratoire en Europe. Plus de 400 migrants ont péri depuis le 1er janvier en mer Égée. En 2015, plus d'un million sont arrivés en Europe, un record absolu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Un homme a tué aujourd'hui 6 employés du département de l'éducation dans le sud de l'Arabie saoudite. C'est ce que rapporte l'AFP, citant le ministère saoudien de l'Intérieur. 2 autres personnes ont été blessées dans cette attaque qualifiée par les autorités d'actes criminels. Elles n'ont pas confirmé si les victimes avaient été tuées par balles. Jazan et les régions frontalières du sud de l'Arabie saoudite ont été bombardées depuis le Yémen par des rebelles chiites que le royaume combat depuis 2015 à la tête d'une coalition militaire arabo-sunnite.
Tension sur la péninsule coréenne. Le gouvernement nord-coréen a ordonné le départ immédiat des Sud-Coréens du complexe industriel conjoint de Kaesong et ordonné la saisie de leurs avoirs. C'est un acte de représailles après la décision unilatérale de Séoul de suspendre les opérations sur un site commun à cause des programmes balistiques et nucléaires de la Corée du Nord. Les 280 ressortissants sud-coréens présents à Kaesong au moment de l'ordre d'expulsion ont franchi la frontière, munis seulement de leurs effets personnels, et ont regagné leur pays peu avant 13h GMT, a annoncé le ministère sud-coréen de l'unification.
Vous avez entendu parler de Bernie Sanders, probablement, car le sénateur du Vermont fait l'actualité à cause de sa bonne prestation face à Hillary Clinton dans les primaires démocrates ici aux États-Unis. Eh bien, ce succès est partagé dans la famille, dirait-on, car deux jours après la victoire de Bernie dans le New Hampshire, son frère Larry a été désigné porte-parole pour les questions de santé du Parti vert britannique. Larry Sanders a 81 ans et il vit au Royaume-Uni depuis environ 47 ans. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Arzuma Compaoré.
Le milieu des opérateurs de téléphonie mobile en Afrique a de plus en plus du mal face à la montée en force des applications de messagerie et de voix sur Internet. WhatsApp, Viber, Skype, Zoom, etc. sont aujourd'hui une alternative très prisée en Afrique, ce qui force les acteurs traditionnels de téléphonie mobile à revoir leur stratégie. Ces derniers souhaitent un traitement équitable avec les services par contournement dits OTT, Over the Top Services, qui permettent le transfert de son, de messages et de vidéos via Internet sans lien avec le fournisseur de réseau. Dans certains pays comme le Maroc, l'utilisation des applications de téléphonie est bloquée sur les réseaux 3G et 4G depuis décembre 2015. Il est en effet reproché aux OTT d'opérer sans licence, sans cahier de charge, de ne pas payer d'impôts dans les pays africains et de rapatrier librement leurs revenus. Selon le cabinet américain Arthur Little, l'application Skype représente 25% des minutes d'appels transfrontaliers. Le cabinet britannique Ovum indique qu'entre 2012 et 2018, la hausse des applications OTT est attendue à 20% par an et pourrait atteindre 1700 milliards de minutes, soit un manque à gagner de 386 milliards de dollars pour les opérateurs au cours de cette période. Nouveau partenariat entre la société béninoise Top Chrono et Chronopost en Côte d'Ivoire. Les deux agences de livraison ont établi des accords commerciaux, annonçant Top Chrono comme distributeur officiel du groupe français La Poste. Créée par Régis Facia, la société de livraison béninoise, présente en Côte d'Ivoire depuis 2009, a accru son chiffre d'affaires de plus 40% depuis 2012. Elle a l'intention de renforcer sa filiale ivoirienne, qui représente déjà 50% de son chiffre d'affaires, estimé à 500 millions de francs CFA.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Arzuma.
En sport, nous accueillons Eric Manerakiza. Salut Eric.
Salut Gabi.
Alors, la Ligue des champions d'Afrique et la Coupe de la Confédération, deux Coupes d'Afrique de clubs. On connaît déjà le calendrier.
Oui, les deux compétitions démarrent entre les 12 et 14 février avec les tours préliminaires qui succédera au tout puissant Mazembe en tant que champion le 23 juin et qui succédera à l'Étoile du Sahel le 6 novembre aux Coupes de la Confédération. À vous de pronostiquer.
Le Paris Saint-Germain renouvelle le contrat de son manager.
C'est une marque de confiance à Laurent Blanc qui n'a pas su affirmer sa légitimité à son poste d'entraîneur. Le nouveau contrat prendra fin en juin 2018.
Parlons, Eric, de la présidence de la FIFA. Le tour du monde des candidats s'achève par l'Amérique.
Exactement, Gabi, c'est l'Amérique pour finir. Ils seront reçus aujourd'hui et demain à Miami pour la CONCACAF, Confédération d'Amérique. Confédération d'Amérique du Nord, centrale des Caraïbes, qui devra décider dans la foulée de soutenir l'un d'entre eux. Mais déjà, le prince Ali dénonce la tactique de ses rivaux qui s'active à s'assurer, selon lui, des votes avec le soutien des confédérations.
Il semble que Salman a toutes ses chances. Barcelone, Messi de retour à l'entraînement après son traitement.
Le quintuple Ballon d'Or a subi lundi et mardi des examens pour évaluer l'évolution de calculs rénaux et a repris l'entraînement aujourd'hui. Le Barça peut donc compter sur Lionel Messi dimanche face au Celta Vigo en championnat d'Espagne.
Et 10 secondes seulement pour parler de la NBA.
Cleveland a battu Lakers, Portland a battu Houston, Boston a battu Clippers, Brooklyn a battu Memphis et Cleveland et Golden State sont les premiers dans leur conférence.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guériac et Chérubin Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour, première escale ce soir, le Tchad.
Une conférence de presse des ressortissants de la région du lac Tchad s'est tenue aujourd'hui à N'Djamena, initiée par Fest Africa Magazine en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour les Populations. Cette rencontre vise à annoncer l'opération coup de cœur en faveur des populations du lac Tchad, victimes des atrocités de la secte Boko Haram et de la sécheresse. La correspondance d'André Kodmajingar.
Pour une fois, les fils et les filles du lac s'unissent pour une cause commune, celle de lancer une opération coup de cœur en faveur des populations du lac victimes de la barbarie de Boko Haram. Suite à ces exactions perpétrées contre cette population, l'État tchadien a fait déplacer plus de 14 000 personnes vivant sur les îles pour des mesures de sécurité. Comble de malheur, ce déplacement joue négativement sur les activités socio-économiques et éducatives et fait planer la famine sur la région du lac. Thierry Maina est le député de la région.
Non seulement les personnes, même les bétails, n'ont pas supporté ce déplacement. La preuve, c'est que beaucoup de cheptels ont commencé à mourir. Certains sont répartis même dans les îles sans leurs propriétaires. Alors, nous avons recommandé au gouvernement de tout faire pour ramener ces paisibles citoyens dans leur lieu d'origine. Parce qu'on ne peut ne pas déplacer les populations, mais assurer la sécurité. Des gens, il y a de cela 20 ans, 30 ans, qui étaient dans les îles, qui sont revenus sur la terre ferme, ils ne peuvent pas faire pratiquer ni la. Aujourd'hui, le sac de céréales est plus cher au lac N'Djamena. Par le passé, c'est le lac qui alimentait la capitale N'Djamena en céréales.
En attendant la relocalisation de ces déplacés, la rencontre de ce jeudi avec la presse tient lieu d'une annonce de l'opération coup de cœur prévue pour le 28 février prochain et qui verra la participation des artistes tchadiens afin de mobiliser les fonds pour soulager un tant soit peu cette frange de la population vulnérable. Dans un ton de désespoir, Yakoura Malem lance un appel aux personnes de bonne volonté en ce terme.
Là où l'homme est là, il y a la femme. Et à côté de la femme, il y a une petite vie qui est dans le chiffon, peut-être sous le moustiquaire, sous le hut, sous le petit hangar. Mais quand les parents sont démunis et ne savent où mettre la tête, c'est la mort à petit feu. J'en appelle à une action citoyenne. Il y a des déplacés à Gorée, aujourd'hui au lac. Qui sait demain? Je ne le souhaite pas. Mais ce qui arrive à ton prochain peut aussi t'arriver.
Pour le consultant du Fonds des Nations Unies pour la Population, professeur Babacar Fall, il est urgent d'agir pour le bien-être de ces populations vulnérables.
Plus de 14 000 personnes de différentes catégories qui sont obligées de vivre dans des campements, dans des conditions de froid et bientôt avec le vent, la chaleur et dans quelques mois la pluie, vous pouvez imaginer les conditions véritablement inhumaines auxquelles ces populations se trouvent confrontées.
André Kodmajingar N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
Dans Washington Forum cette semaine, le chômage chez les jeunes en Afrique. Les diplômés affichent un taux de chômage supérieur à celui des jeunes qui ne sont pas allés à l'école. De la Tunisie au Tchad, ce manque d'emploi est-il une bombe à retardement pour la société? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Et retrouvez-moi dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
La situation sécuritaire dans les pays du Sahel est au cœur d'une rencontre initiée mercredi à Lomé par le Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique. Les représentants de 9 pays, notamment le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Mauritanie, la Centrafrique, le Mali et le Tchad, examinent la situation pour amender et valider un rapport onusien sur la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre dans la région. Nanit Talani a joué à Lomé Amadou Maïga. Il est président du réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest.
Le trafic d'armes aujourd'hui est lié au trafic de drogue. Et nous savons qu'en Afrique, il y a des grands espaces étendus où il n'y a rien. Si tu quittes le sud de la frontière de la Libye pour venir au Mali, c'est un vaste désert étendu qui dépasse certains pays en superficie. Deuxièmement, les frontières sont très poreuses. Elles sont longues, elles sont nombreuses. Et puis, il y a des frontières inhabitées. Tu quittes d'une frontière à l'autre, peut-être que tu as 7000 km, 3000 km, 10 000 km dans cet espace vide. Alors que les trafiquants, ça c'est leur terrain de prédilance où ils font les affaires, où ils passent librement. Il n'y a pas de douaniers, il n'y a pas de gendarmes, il n'y a pas de militaires. C'est ça. Donc, même si on ne fabrique pas les armes en Afrique, c'est vrai que c'est chez nous en Afrique que les armes créent la désolation le terrorisme et surtout les petites armes, les LPC, les petites armes de circulation et les petits calibres. Surtout ça, parce qu'elles sont dissimulables. Alors, on ne fabrique pas les armes chez nous, mais attention, il y a la fabrication traditionnelle aussi.
Comment ça?
Aujourd'hui, il y a des fabricants d'armes. Tu peux trouver dans des pays comme le Mali, il y en a, le Togo, il y en a, le Ghana, il y en a, le Burkina Faso, il y en a. C'est des fabricants d'armes. Traditionnellement, normalement, ils font ça pour vivre, mais il y a des gens qui utilisent ça aussi pour terroriser, pour voler, pour attaquer les gens, pour couper les routes. Ça existe. Donc, le phénomène de la circulation illicite des armes aujourd'hui est un phénomène réel. Et nous, le cri d'alarme que nous lançons aujourd'hui, c'est de faire face à cette lutte. Avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui comme occupation dans l'espace du Sahel, c'est tout ce qu'on appelle le G5 Sahel, c'est-à-dire que les cinq pays qui constituent le G5 Sahel, il y a un espace qu'il faut pacifier et qui ne peut se faire sans l'action de la société civile. La Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. Ça, ce sont les cinq pays qui constituent le G5 Sahel.
Amadou Maïga, président du réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest.
Cette semaine, les voitures s'invitent dans Vous et Nous. Roger nous emmène dans un salon automobile très populaire. Puis nous allons découvrir des voitures qui se conduisent elles-mêmes. Nous irons aussi à Bamako avec Toumani Diabaté, organisateur du festival acoustique Bamako. Isha Serraï viendra nous parler d'une drôle de tradition américaine, le jour de la marmotte. Sadi Bousseau du magazine Afrique Numérique nous a préparé une liste des applications à connaître quand on vit en Afrique. Sans oublier nos rendez-vous Facebook et On dit quoi. À bientôt.
Interminable crise pour le président sud-africain Jacob Zuma, qui continue depuis 2014 de faire les frais de la rénovation controversée de sa résidence privée aux frais du contribuable. Sa récente promesse de rembourser une partie des 24 millions de dollars engloutis par les travaux n'a pas calmé la colère de ses adversaires politiques et même des Sud-Africains ordinaires. Pour un éclairage, Timothée Donangmaï a joint Léon Katamboué, économiste à Durban.
Il avait dit qu'il avait dépensé l'argent de sa famille. Il n'a jamais reçu l'argent d'une autre personne. Mais après plus ou moins 2 ans, aujourd'hui, il va dire que non, je suis prêt pour rembourser une partie des biens ou des choses qu'on avait utilisées qui sont en dehors des sécurités de ma maison. Alors c'est pourquoi maintenant tout le monde, même les partis politiques de l'opposition, disent que non. Maintenant, ce n'est pas seulement le fait de rembourser l'argent, mais vous avez trompé au Parlement et vous avez trompé aussi à la République.
Le problème va apparemment au-delà de cette controverse, puisque de nombreux Noirs semblent mécontents de la politique du président Zuma.
Non, tout le monde, ce n'est pas seulement les Noirs, tout le monde, vraiment. La vie économique, l'atmosphère économique n'est pas vraiment bonne pour le moment. Bon, les biens sont très chers au marché, l'argent est en train de perdre, la monnaie est en train de perdre la valeur. Tout ne marche pas. Non seulement que l'économie ne marche pas, il y a encore le problème de corruption par-ci par-là. Alors c'est pourquoi la population disait qu'aujourd'hui même, ce soir, il va ouvrir le Parlement. Il va donner le discours qui donnera des grandes lignes de l'économie du pays pour cette année 2016. Alors, mais les autres disaient que non, les cadeaux qu'ils pouvaient offrir au peuple, c'est juste sa démission.
C'est une situation qui, inévitablement, entame la crédibilité de l'ANC, le parti de M. Zuma.
Ah, vraiment, vous voyez, l'ANC, c'est un parti qui a, dernièrement, ils ont vécu leur 104e anniversaire. Alors, s'ils voient que leur candidat n'est pas crédible, ils vont faire tout pour se défendre et parfois même pour envoyer un autre candidat qu'ils trouvent qu'il est capable de relancer l'économie.
Quels sont les gens qui sont en vue aujourd'hui qui pourraient être choisis par l'ANC pour remplacer Zuma?
Mais le vice-président de la République, il vient de l'ANC. C'est un homme qui est crédible, qui est même accepté par tout le monde, que ce soit le blanc, les noirs, les indiens, toutes les races qui sont ici acceptent le vice-président parce que il est un peu quelqu'un qui a une morale forte. Il est vraiment accepté.
Léon Katamboué, économiste à Durban.
Le groupe international de soutien à la Syrie se réunit de nouveau à Munich. C'est quelques jours après la suspension des discussions indirectes entre belligérants syriens à Genève. Une vingtaine de ministres des Affaires étrangères essaient de trouver une trêve dans les combats et arrêter le flux des migrants et réfugiés. Moscou se dit prêt à un cessez-le-feu le 1er mars, mais Washington veut une trêve ici et maintenant. Sur les chances de succès de la réunion de Munich, Idriss Fall a joint Mikhail Barra, spécialiste du Proche-Orient, à l'Université Saint-Louis à Madrid.
Cette réunion de Munich est consacrée à deux points principaux. Mettre en place un cessez-le-feu et trouver comment tarir le flot de réfugiés qui s'organise au départ de la Syrie. Ces postures contradictoires vont continuer à prévaloir. Les Américains et leurs alliés vont insister sur cette idée du cessez-le-feu. Les Russes vont dire en parallèle qu'eux aussi sont en faveur d'un cessez-le-feu. Mais dans quelles conditions est-ce qu'on met en place un cessez-le-feu et avec quels partenaires ? Il ne faut pas oublier que l'armée syrienne elle-même est dans des opérations qui semblent déterminantes par rapport à sa possible reprise de la ville d'Alep. Une des priorités stratégiques qui s'impose pour l'instant, aussi bien aux Russes qu'au régime syrien, c'est quand même de faire en sorte que la ville d'Alep soit sous leur égide avant de se conformer aux conditions d'un cessez-le-feu.
Les premiers à payer, ce sont les civils qui fuient les combats et Ankara refuse d'ouvrir sa frontière pour le moment.
La Turquie, c'est qu'elle a quand même laissé effectivement un passage de réfugiés sur son territoire à travers les dernières années. La contrepartie négative de cela, c'était que Ankara a laissé pas mal de combattants, notamment des combattants radicaux, traversés vers la Syrie. Mais aujourd'hui, je crois que malheureusement, ce à quoi on assiste, c'est plutôt à un chantage de la part de la Turquie. Quand on voit les tractations, notamment cette dernière réunion entre Angela Merkel du côté de l'Allemagne et certains de ses homologues turcs, dont M. Erdogan ou M. Davutoğlu, il y avait une forme de marchandage de la part de la Turquie à tarir le flot de réfugiés ou non. On assiste une fois encore à une Turquie qui essaye de tirer son épingle du jeu et qui essaye d'activer les évolutions de la donne syrienne en sa faveur.
La donne du groupe État islamique et du front al-Nusra, on en fait quoi ?
Déjà, l'État islamique et le front al-Nusra sont considérés comme des organisations non fréquentables. Les États-Unis, qui d'ailleurs avaient inscrit le front al-Nusra sur leur liste des organisations terroristes. Mais le gros problème, finalement, ce n'est pas l'État islamique qui, pour sa part, est effectivement face à des attaques ou face à des combats qui sont lancés par la coalition menée à son encontre. Je dirais que le problème, c'est plutôt au niveau de Front al-Nusra. On sait que le Front al-Nusra est une extension de l'organisation Al-Qaïda, mais d'un autre côté, des pays alliés des États-Unis considèrent qu'au contraire, il faudrait compter sur le Front al-Nusra.
Ça, c'est l'Arabie Saoudite.
Bien sûr, les soutiens effectifs du Front al-Nusra comptent parmi eux, en première ligne, l'Arabie Saoudite. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier qu'il y a quelques temps encore, la France également considérait que le Front al-Nusra était une organisation fréquentable et qui reflétait l'aspiration d'une majorité de Syriens. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce sont plutôt le rapport de force sur le terrain qui semble déterminer les choses. Et donc ce rapport de force fait qu'une majorité des alliés de Washington continue à avoir pour priorité absolue le renversement de Bachar al-Assad. Donc ces alliés considèrent que soutenir toute formation opposante à Bachar al-Assad est quelque chose de jouable et quelque chose de légitime. Mais en contrepartie, on voit que d'un côté, Bachar al-Assad tient et que de l'autre côté, ceux qui payent malheureusement le prix de tout cela, ça reste les civils syriens.
Mikhail Barra, joint à Madrid.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Lionel Gaïma, présentation Morgane Guériec et Chérubin Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook et sur voafrique.com.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan. À Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.